Les 8h en ce jeudi 9 avril. Joyeux 9 avril. Joyeux non-anniversaire à toi peut-être qui est fan d'Alice au Pays des Merveilles.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
L'heure du journal a sonné, présenté par Valérie Favre. Bonjour.
Bonjour Yohann, bonjour à tous. À Vevey, le quai Perdonnet fête ses 150 ans et se raconte au musée historique. Depuis le 1er avril et jusqu'au 4 octobre, une exposition retrace l'histoire de cette promenade emblématique du bord du lac, construite en 1861-1876 grâce à la donation de Vincent Perdonnet. Plans, objets et archives dévoilent un passé parfois méconnu. Un quai bâti sur le lac, marqué par des effondrements et plusieurs reconstructions. Et pour la première fois, le public est aussi invité à découvrir ce qui se cache sous le quai, observé autrefois par des scaphandriers lors de différentes phases du chantier. Une plongée dans l'histoire qui invite à porter un regard neuf sur un lieu du quotidien. Fanny Abbott, directrice du musée historique de Vevey.
Il y a un photographe, plongeur photographe, Gatien Cosandet, qui nous a fait le grand plaisir de nous prêter, de mettre à notre disposition certaines de ces images qu'il a prises sous le quai Perdonnet, puisqu'effectivement, vu qu'il est construit un peu comme un pont, surtout sur la partie qui est du côté de la place du marché, ben en fait, il est possible d'aller dessous. Alors bien sûr, il faut être plongeur, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition, mais lui, il est allé dessous et il a fait quelques photos. Il y a d'autres amateurs qui font aussi des photos sous le quai. Et là, il nous a fait le plaisir de nous en prêter pour qu'on puisse découvrir, après avoir vu finalement la vie dessus, et bien voir un peu quelle peut être la vie dessous.
Fanny Abbott au micro de Julie Gué. L'exposition est à découvrir jusqu'au 4 octobre au musée historique de Vevey. D'ici là, plusieurs visites guidées et conférences seront proposées, ainsi qu'un carnet découverte pour le jeune public. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du musée.
La municipalité d'Aigle dévoile sa vision pour la gestion de l'eau potable à l'horizon 2029.
Pour assurer l'approvisionnement de cette ressource sur le long terme, deux solutions ont été retenues. Parmi elles, la construction d'une station d'ultrafiltration sur les sources de Fontanet et Fontaine-Claire pour éviter que l'eau ne devienne trouble en cas de forte pluie. Un crédit d'étude de 514 000 francs pour ce projet sera soumis au législatif Aiglon en mai. Cette réorganisation intervient alors que la concession d'exploitation des puits de la Mêlée prendra fin en 2035 et que la création de nouveaux puits sur le territoire Aiglon n'est pas une alternative envisageable. Les explications de Maud Allora, municipale aiglonne, chargée de la gestion de l'eau.
Les puits dans la nappe phréatique, ça devient compliqué, dû au parce que ces sources d'approvisionnement subissent beaucoup de pollution. D'ailleurs, on a aussi une pollution sur notre puits de la Mêlée 1, au 1-2-4 Triazol. Je vous rassure tout de suite, ce puits a été fermé, donc les habitants d'Aigle ne consomment pas cette eau, dès qu'on a su qu'il y avait un dépassement avec ce micropolluant.
Des propos recueillis par Léa Journeau. L'autre mesure envisagée pour sécuriser l'approvisionnement de l'eau potable à Aigle est le raccordement au réseau intercommunal du Haut-Lac. Objectif, pouvoir apporter de l'eau traitée de la commune de Roche en cas de crise majeure ou de sécheresse.
Le logiciel qui permet au SECO, au secrétariat d'État à l'économie, de gérer le chômage et la distribution des indemnités a gagné en efficacité.
Souvenez-vous, il a complètement dysfonctionné en janvier, privant des milliers de chômeurs de leur dû. Le système est en phase de normalisation. Selon le SECO qui s'exprimait hier, seuls les nouveaux chômeurs rencontrent encore des difficultés. Le chômage, lui, est en léger recul à 3,1% au niveau suisse. Il devrait rester proche de 3% tout au long de l'année. Un chômage largement au-dessus de 4% dans les cantons de l'ouest de la Suisse, de Genève au Jura. Les explications du chef de la direction du travail au SECO, Jérôme Cosandet.
Ces différences, c'est pas juste régional, c'est surtout lié à la structure économique. Vous avez, par exemple, dans le canton du Jura, dans le canton de Neuchâtel, dans le Jura bernois, vous avez l'industrie mécanique, l'industrie des métaux, l'industrie horlogère qui occupe une place prédominante. Or, ces industries d'exportation sont particulièrement touchées par les incertitudes liées aux tarifs douaniers aux États-Unis, à la force du francfort. Donc ça se répercute évidemment sur le taux de chômage de ces cantons. Et puis, si vous parlez de l'ensemble de l'ouest de la Suisse, c'est vrai que le bassin du marché du travail est plus limité pour des raisons linguistiques.
Des propos recueillis à Berne par notre correspondant Serge Jubin. À l'étranger, 2 ans et demi après la mort de Matthew Perry, une trafiquante pourvoyeuse de la drogue qui a tué l'acteur vedette de la série Friends a été condamnée hier à 15 ans de réclusion par un tribunal de Californie. Surnommée la reine de la kétamine dans certains milieux hollywoodiens, Jasmine Sanga encourait jusqu'à 65 ans de prison après avoir plaidé coupable l'an passé d'une série de chefs d'accusation dont la distribution de kétamine ayant entraîné la mort. Outre Jasven Sanga, quatre autres personnes ont plaidé coupables pour leur implication dans le décès de Matthew Perry, son assistant personnel, Kenneth Uwamaza, un intermédiaire, Eric Fleming, avec lequel travaillait Madame Sanga, et deux médecins accusés d'avoir consciemment exploité son addiction.
En ski alpinisme, l'équipe de Suisse sort d'un hiver réussi en tout point.
Chez les hommes, Rémi Bonnet s'est adjugé le Grand Globe, tandis que le Valaisan Aurélien Gay et les frères fribourgeois Robin et Thomas Boussard ont joué les premiers rôles. Dans la catégorie féminine, la Boélande Caroline Ulrich et la Lesnoude Thibaut Dezen se sont elles hissées dans le top 10 du classement général. Sans oublier les médailles obtenues aux Jeux Olympiques par Marianne Faton et Yon Kistler, ces breloques permettront d'attirer l'attention du grand public sur le ski alpinisme. C'est le souhait de l'entraîneur national Jean-Philippe Fataria.
Sur les médailles olympiques, c'est clair qu'il y a eu un changement, beaucoup plus d'attention. Après, sur notre sport, on attend un peu maintenant les retombées. On espère pouvoir avoir un peu plus de soutien au niveau des sponsors aussi. On espère pouvoir profiter de ces Jeux olympiques pour faire connaître notre sport. Une chose qui a changé, je pense, c'est le fait que maintenant les gens savent qu'est-ce que c'est le sprint, qu'est-ce que c'est le relais mixte. On espère que pour 2030, on puisse mettre un format individuel attractif. Et voilà, on aimerait aller vers ça pour 2030.
Rendre l'individuel attractif, c'est faisable au niveau télévisuel, par exemple?
Je pense que c'est tout à fait faisable. Il faut avoir un parcours qui convienne aux athlètes et qui soit aussi faisable pour les organisateurs. Avec aussi les conditions de neige, la météo. Et il faut trouver un compromis et j'espère qu'on trouvera un compromis.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. À noter que la plupart des membres de l'équipe de Suisse de ski alpinisme s'aligneront la semaine prochaine sur la patrouille des glaciers.
C'est devenu une tradition ces dernières années.
Chaque étape du Tour du Chablais fait le plein. Hier à Viona, pour la première des 6 manches de l'édition 2026 de la manifestation, ils étaient 1468 à prendre le départ, adultes, écoliers et mini confondus. Dans la catégorie adulte, c'est Marine Antille, valaisanne d'origine et résidente de Renan, qui s'est montrée la plus rapide devançant la chablaisienne Pauline Jex et Anne-Lise Métraillé sur la ligne d'arrivée. Chez les hommes, le Valaisan Vincent Mouton a avalé le parcours de 7,9 km en 25 minutes 11 pour l'emporter devant Aurélien Berthollet et Jules Herter. Et en hockey sur glace, victorieux 2-1 de Genève hier à domicile, Fribourg-Gotteron a repris l'avantage en demi-finale des playoffs de National League. Cet acte 3, les Dragons sont allés le chercher avec les tripes. De son côté, le vainqueur de la saison régulière, le HC Davos, garde la main. Les Grisons repris l'avantage dans la série royale qui les oppose aux Zurich Lions, le double tenant du titre. Sur sa glace, le HC Davos a enlevé l'acte 3-1-0 sur une réussite de David Barandin.